Les rendez-vous de l'information.
Les rendez-vous d'information, nous recevons ce soir les élèves de terminale HLP du lycée du Couzan à Saint-Girons avec leur professeur de français, Élodie Saint-Tenac, ainsi que leur invité, l'écrivain Violaine Béraud.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui à Radio du Couzeran, RDC, avec un groupe de jeunes du lycée du Couzeran. 7 élèves sont devant moi du groupe de terminale HLP, Humanité, Littérature et Philosophie. 7 élèves qui, aujourd'hui, rencontrent pour la première fois une autrice, Violaine Béraud, qui est à côté de moi. Je les accompagne en tant que professeure de français, Élodie Saint-Tenac. Alors, l'émission va se passer en deux temps. Le premier moment, en fait, nous allons aborder l'œuvre de Violaine Béraud et son métier. Et sur une deuxième partie d'émission, nous parlerons plus spécifiquement de son roman « Tomber des nues ». Mais je laisse la parole à Violaine, comme elle aime qu'on l'appelle. Voilà, Violaine.
Bonjour, donc je croise pour la première fois les élèves de terminale qui vont travailler avec un petit peu avec moi sur Tomber des nues. Donc je vais écouter leurs questions, on va commencer par leurs questions, je crois.
Donc je suis Clémentine et ma première question ce serait depuis quand écris-tu et si c'est un métier ou une passion chez toi ?
Alors c'est devenu un métier, mais au départ c'est plutôt une passion. Je pense que j'écris à peu près depuis l'âge de 15 ans. J'ai toujours lu. Pour moi, lire et écrire, c'est très lié. Et je lisais beaucoup depuis toute petite, mais je me souviens qu'en classe de seconde, donc vers 15 ans à peu près, en cours de français, on a lu un livre qui m'a vraiment bouleversée. C'était Anne de Beaumugne de Jean Giono. Et quand j'ai lu ce livre-là, c'était un livre très court, avec des phrases très très simples, et qui donnait énormément d'émotions. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est incroyable, les livres peuvent donner de l'émotion tout en étant très simples et très courts. Donc, ça m'a donné, je crois, à partir de là, envie d'écrire. J'ai commencé à écrire à 15 ans. Je voulais pas du tout en faire mon métier, donc j'ai fait des études, j'ai vécu d'autres vies, tout en continuant à écrire. Et mon premier roman a été publié quand j'avais 26 ou 27 ans. Et c'est devenu vraiment mon métier, c'est-à-dire mon métier au sens où je vis de ça depuis 5 ou 6 ans seulement.
Bonjour, je m'appelle Luna et je voulais savoir du coup quelles études vous avez fait. Et avant de pouvoir vivre d'écrivaine, vous avez fait quoi comme métier ?
Oui, moi j'ai un parcours de vie très bizarre. D'abord, on fait pas des études, enfin on fait rarement des études pour être écrivain. Pourquoi on fait rarement des études pour être écrivain ? Parce qu'on n'est pas obligé d'apprendre à écrire pour écrire des livres, même s'il y a de plus en plus des masters de création littéraire qui existent, par exemple, pour apprendre à écrire. Et puis en plus, si on faisait des études pour être écrivain, on serait pas sûr pour autant de devenir écrivain au bout, parce qu'on sait jamais comment on va marcher un livre, on sait jamais si on va réussir à écrire plusieurs livres ou si on va s'arrêter à un seul, on sait pas du tout. Donc moi, en ce qui me concerne, j'avais pas du tout en tête que ça devienne mon métier. Quand je suis arrivée en terminale, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. On nous mettait, à mon époque, j'ai 55 ans, hein, on nous mettait moins de pression qu'à vous maintenant, je pense, sur l'orientation. Et moi, j'aimais autant les maths que le français. Et donc, en fait, j'ai fait une double formation. J'ai commencé par faire des études de philo. Mais je voulais pas être prof, et à part prof, il y avait pas grand chose en faisant des études de philo. Donc j'ai fait 3 ans d'études de philo, et j'ai fait, en parallèle, j'ai commencé une formation en informatique, et je suis devenue ingénieure en informatique. Ça a été le début de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé en informatique, et c'est là que j'ai commencé à être publiée, à écrire. Et puis, à l'âge de 30 ans, je me suis dit que ça avait aucun sens pour moi de passer mes journées enfermées derrière un ordinateur, dedans, alors que le seul truc qui était important pour moi, c'était d'aller marcher dans la montagne et d'être dehors et d'écrire. Et donc, j'ai changé complètement de métier et je suis devenue éleveur. Alors ici, dans le Couzeran, c'est pas très surprenant, mais je suis venue dans le Couzeran, j'ai élevé des chèvres et des chevaux et j'ai fait du fromage. Et j'ai fait ça pendant 12 ans de ma vie. Au fond de la vallée du Biros. Sur la fin, j'étais dans le Biros. Et j'étais très heureuse dans ce métier-là, d'éleveur qui avait beaucoup de sens pour moi, où je gagnais beaucoup, beaucoup moins d'argent que quand j'étais ingénieure en informatique, mais où j'étais beaucoup plus heureuse parce que j'étais dans un lieu de vie qui me plaisait, dans un mode de vie qui me plaisait. Et je suis tombée très malade il y a une dizaine d'années. J'ai attrapé la maladie de Lyme, qu'on attrape avec les tiques, qui a beaucoup traîné chez moi. Donc j'ai été très amochée, j'avais du mal à marcher. J'ai commencé un début de maladie d'Alzheimer au niveau neurologique, j'étais très abîmée. Et j'étais tellement abîmée physiquement que je me suis dit, il faut que j'arrête l'élevage. Donc j'ai pris un nouveau virage. Et je me suis dit, ça va être l'occasion de me remettre à écrire. Et j'ai repris l'écriture que j'avais arrêtée pendant toute la période où j'ai élevé des chèvres. Les 12 ans où j'ai été éleveur des chèvres, j'ai pas écrit. Parce que pour écrire, moi en tout cas, j'ai besoin d'avoir le cerveau totalement disponible. Si je pense à autre chose, j'écris que sur l'émotion. Et après, on parlera un peu plus de mes livres, mais j'écris beaucoup autour de l'émotion. Et si j'ai mon cerveau qui est obnubilé par autre chose, par mes bêtes par exemple, je ne peux pas me concentrer sur l'écriture. Donc quand j'ai dû arrêter les chèvres, je me suis remise à écrire, et depuis 10 ans à peu près que j'ai arrêté l'élevage, je fais plus qu'écrire.
Bonjour, je m'appelle Maïlys et je voudrais savoir où est-ce que tu trouves l'inspiration pour tes livres.
Alors je ne sais pas où je trouve l'inspiration, et j'ai du mal à définir ce que c'est l'inspiration, parce que quand j'écris, j'ai un thème dont je veux parler. Par exemple, tout à l'heure, on parlera de tomber des nues. Je voulais parler du déni de grossesse. Du déni de grossesse et de l'instinct maternel. Voilà, c'était les deux thèmes dont je voulais parler. Mais je ne sais pas du tout l'histoire au départ. Donc l'inspiration, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Les histoires, elles me viennent uniquement en me mettant au travail. Je me mets à ma table, vraiment, avec un papier et un crayon. Je commence à écrire, je cherche, et c'est là que ça vient. Mais j'ai l'impression que ça passe même pas par mon cerveau, que c'est juste ce que je ressens qui sort. Et du coup, il y a des choses qui sortent, qui font partie de ma vie, mais je savais pas que ça me servirait un jour. Par exemple, dans Tomber des nues, il y a les chèvres qui apparaissent, mais je savais pas que ma vie avec les chèvres, elle ressortirait dans des livres après. Donc je ne sais jamais ce qui va me servir. Peut-être qu'être avec vous aujourd'hui, ça me servira un jour dans mes écrits. Tout peut servir. Un écrivain, c'est quelqu'un qui... C'est une éponge. C'est quelqu'un qui... Ou un artiste en général. Hein, c'est quelqu'un qui absorbe tout ce qu'il y a autour de lui, mais qui ne sait pas du tout si ça va lui servir un jour. Et puis 10 ans plus tard, ça peut ressortir quelque part.
Bonjour, je m'appelle Yuna. Et je voulais savoir combien de temps tu prends pour écrire un livre, environ.
Alors ça, c'est très variable, le temps pour écrire un livre. Moi, je refuse quelque chose que font d'autres écrivains. Je refuse de signer un contrat avec mon éditeur avant que le livre soit écrit. Parce qu'il y a des écrivains qui signent des contrats. Moi, j'avais fait ça au tout début pour un de mes premiers livres. On fait lire à l'éditeur, par exemple, le premier chapitre. Ça lui plaît. Et on signe un contrat. Et dans le contrat, il y a écrit « Le livre doit nous être rendu dans un an », par exemple. Moi, je suis incapable de savoir s'il va me falloir 6 mois, 1 an ou 3 ans pour écrire un livre. Parce que j'écris des livres très courts. Tous mes livres sont tout petits, très courts. Mais parfois, il me faut 3 ans pour l'écrire. Comme Des bêtes, par exemple, mon avant-dernier livre, qui est un minuscule livre, j'ai mis 3 ans, et je faisais que ça, j'ai mis 3 ans à l'écrire. Mais parce que j'écris des milliers de pages, mais vraiment, hein, des milliers de pages, pour à la fin ne garder que les 120 pages qui font le livre. Donc je ne veux pas avoir, de pression par rapport à une date, parce que je ne suis pas sûre d'y arriver. C'est bien des fois d'avoir un peu de pression, parce que ça motive. Parce que c'est un métier bizarre, hein, écrivain, on n'a pas de patron. On n'a pas d'horaire obligatoire pour travailler. On n'est pas dans un bureau. Si je veux faire la grasse matinée au lieu de me mettre au travail, je fais la grasse matinée. Mais ça ne fait pas avancer mon livre. Donc il faut arriver à gérer son travail, il faut arriver à gérer son temps. Et en même temps, il ne faut pas se mettre une pression terrible ou pas s'obliger à sortir un livre à telle date alors qu'on a l'impression qu'il n'est pas fini, qu'il n'est pas bon.
Je voulais demander, est-ce que tu as déjà eu un livre refusé à la publication ?
J'ai eu un livre refusé. Alors, pour expliquer, donc moi, il y a 2 moments dans ma vie où j'ai écrit. Avant les chèvres et après les chèvres. Entre 25 et 30 ans, on va dire, et à partir de 40 et quelques. Entre 25 et 30 ans, j'ai écrit beaucoup de livres. Et à un moment, ça devient presque trop facile. Ce qui est compliqué, c'est de se faire publier le premier livre. Ça, c'est compliqué. Mais une fois que le premier livre est publié, on est rentré dans une maison d'édition, c'est beaucoup plus facile pour les suivants. Et du coup, on a tendance à être... j'avais tendance à être un peu moins exigeante avec moi-même. Et au bout d'un moment, j'écrivais presque trop facilement, quoi. Je me laissais un peu aller. Et heureusement, il y a un éditeur qui m'a refusé un livre. Et ce livre-là, je l'ai relu il n'y a pas très très longtemps. Et il est vraiment pas bon. Et heureusement, il a été refusé. Donc le refus d'un livre, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'une fois que le livre est dans la nature et qu'il a été publié, on peut plus rien faire. Hein. Il est vraiment lâché dans la nature, il existe. Et moi, j'aime bien ne pas avoir honte de ce que je lâche dans la nature.
Est-ce que certains de tes personnages dans tes livres, ils sont inspirés de vraies personnes ?
C'est très rare que je m'inspire de vraies personnes. Mais je reprends l'exemple de Tomber des nues, par exemple. Comme vous connaissez ce livre. Dans Tomber des nues, il y a Dédé. Dédé, c'est celui qui a des vaches. Et quand j'ai écrit Dédé, c'est très rare que ça m'arrive, mais pour Dédé, je voyais vraiment un bonhomme qui habite dans une vallée verte chez moi, qui a des vaches, que j'aime beaucoup, qui je pense ne lit pas du tout, et je ne lui ai jamais dit, donc je le dis là, et je ne dis pas son vrai nom. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je le vois un peu comme je vois Dédé, quelqu'un de grand, costaud, bourru un peu avec les vaches, et au fond qui est très tendre. C'est un gentil qui se cache, quoi, sous un côté très bourru. Ça va bien avec les éleveurs de vaches, ça. Donc, par exemple, pour lui, je pensais à lui quand j'écrivais, mais c'est très rare. Très souvent, je vois pas les personnages. Ou alors, j'ai des petits bouts de personnes. Dans Tomber des nues, il y a Tony, qui est le copain. Tony, j'ai un ami qui me faisait vaguement penser à Tony. Mais c'est vague. Et lui, quand je lui ai fait lire le livre, je lui ai dit, j'ai pensé à toi en écrivant Tony, il ne s'est pas du tout retrouvé. Moi, je pense à lui, mais lui, il ne se retrouve pas dans le livre.
Pour revenir un peu en avant sur une précédente question, comment choisis-tu les extraits que tu gardes ou pas dans tes livres ?
Ça, c'est le côté un peu difficile. Non, ce n'est pas vraiment difficile. Ce que je fais, c'est que je mets énormément de temps à trouver le style, le ton de mon livre, la façon dont je vais construire mon livre, en fait. C'est les premières pages de mon livre. Et pour trouver les premières pages de mon livre, là, j'écris énormément, énormément. Mais ça veut dire que tous les matins, je me mets à écrire. Je laisse venir tout ce qui vient. Hein. Mais vraiment, tout ce qui vient sur ce thème-là, n'importe quoi. Très souvent, rien qu'en le relisant le matin, je trouve ça nul et je le mets à la poubelle. Parfois, ça arrive jusqu'au lendemain. Le lendemain, quand je relis, 9 fois sur 10, je mets à la poubelle. Parce que c'est mauvais, ça ne sert à rien de le garder. Et après, heureusement, de temps en temps, je garde. Et là, quand je garde, je réécris, je relis à voix haute pour entendre comment ça sonne, je retravaille. Et peu à peu, j'arrive à monter des morceaux qui vont faire le livre. Et après, je travaille tout à voix haute pour entendre comment ça sonne. Je relis, et si moi, en relisant, je m'ennuie, je me dis « c'est pas bon ». Si je m'ennuie, je me dis que vous, les lecteurs, alors là, vous allez sacrément vous ennuyer. Je ne veux pas que vous vous ennuyiez en lisant. Donc, il ne faut pas que je m'ennuie moi-même. Donc, pour trouver si c'est bon ou si ce n'est pas bon, en fait, je relis à voix haute, je relis en permanence. Je m'enregistre même en train de relire et je m'écoute. Jusqu'à ce que ça m'ennuie pas trop. Le problème, c'est que ça m'écœure aussi au bout d'un moment, parce qu'à force de relire toujours la même histoire, je commence à la connaître vraiment par cœur. Et donc, il faut arriver à continuer à travailler sans être écœuré par l'histoire.
Il y a un livre que tu affectionnes par-dessus tout ?
Moi, je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant, mais je dis que les livres, c'est comme les enfants. On préfère toujours le petit dernier, ou on a l'impression de préférer le petit dernier, parce que c'est le petit dernier, bien sûr. Mais en fait, il suffit qu'il y en ait un dont on me reparle beaucoup, ou un à qui il arrive quelque chose, et ça le fait remonter, ça le fait ressurgir, et je me dis « Ah, mais je l'aimais bien, celui-là aussi ». Donc en fait, je crois que je n'ai pas réellement de préféré. Je suis toujours plus concentrée sur le dernier, parce que je sors juste de son écriture. Mais après, c'est comme les enfants. Il y en a par moments qui m'agacent. Il y en a que je trouve qui vieillissent ou qui grandissent mal. Et puis après, ça va mieux. J'ai vraiment l'impression d'être une mère avec ses enfants, avec mes livres. Et en même temps, je suis fière d'eux. Je suis contente qu'il leur arrive des choses. Il y a des livres, Il y a des livres que j'ai écrits il y a très longtemps et qui ressurgissent parce que, je sais pas, il y a une adaptation en théâtre, par exemple, des choses comme ça. Et je suis très, très fière pour eux, mais vraiment comme une mère avec ses enfants, je crois.
Je voulais savoir pourquoi il n'y avait aucune ponctuation dans tes livres, à part des virgules. Est-ce que ça apporte quelque chose de particulier ?
Alors ça dépend des livres. C'est pas... Il y a des livres dans lesquels il y a très peu de ponctuation ou il y a que des virgules. Il y a des livres dans lesquels il y a toute la ponctuation permise. Il y a juste un symbole de ponctuation que j'aime pas et que j'emploie vraiment très très rarement, c'est le point-virgule. Mais à part le point-virgule, je crois que suivant les livres, je peux tout employer. Pourquoi je mets de la ponctuation ou pas, et telle ponctuation ou telle autre, c'est uniquement une histoire de rythme. Je ne suis pas du tout musicienne, peut-être que vous êtes beaucoup plus musicien que moi. Je ne suis pas musicienne, mais j'ai l'impression que j'écris des livres comme je composerais de la musique. Je cherche un rythme. Et quand on écrit, le rythme, c'est la ponctuation. Donc la ponctuation, elle me sert juste à rythmer le texte. Et ça sert à quoi de rythmer le texte ? Ça sert à entraîner le lecteur. Parce que le lecteur, il lit en fonction de la ponctuation. Et si je vous fais des phrases très longues avec plein de virgules, ça va vous essouffler beaucoup plus que si je fais des phrases très courtes, par exemple. Donc c'est ça, le choix sur la ponctuation, le choix aussi sur les majuscules, les minuscules en début de phrase. Mon tout dernier livre, par exemple, tous les paragraphes commencent par des minuscules et par une conjonction de coordination. Mais où est donc Ornicar? Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, conjonction, oui. Une conjonction de coordination, et en fait, on commence les phrases en cours de phrase. Et une phrase, ça ne commence pas par « et » normalement, ça ne commence pas par « où ». Donc voilà, c'est juste une histoire de rythme. J'écris comme je composerais de la musique.
Bonjour, je m'appelle Inès, et je voudrais savoir comment est-ce que tu définirais ton style d'écriture ?
Ça, c'est super difficile. Je crois que l'auteur, c'est le plus mal placé pour définir son style d'écriture. Et surtout, et aussi, il y a autre chose, c'est que mon écriture, elle a évolué dans le temps. Ma façon d'écrire il y a 30 ans, pour mon premier roman, et ma façon d'écrire maintenant, c'est plus la même. Avant, j'écrivais... Je me souviens qu'au moment où j'ai écrit mon premier roman, je disais que j'aimais que les phrases très courtes, par exemple, avec des mots très simples. Et maintenant, je fais des phrases très longues. Pas avec des mots plus compliqués, parce que j'aime bien que le vocabulaire soit simple, mais... Donc, le style d'écriture, il varie. La seule chose qui n'a pas varié chez moi, c'est que j'écris toujours des textes courts, des romans courts, qui font entre 120 et 150 pages, ce qui est court pour un roman, ce qui est trop long pour une nouvelle. Mais c'est la longueur dans laquelle, je crois, je me sens bien. J'essaie en permanence de faire autre chose, et à chaque fois, je retombe sur ça. Mais je ne sais pas définir avec d'autres mots mon style. En plus, moi, je ne suis pas prof de français, donc je ne sais pas du tout le vocabulaire d'un prof pour définir un texte.
Comme question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait écrire et en faire, par exemple, son métier ou juste une passion, par exemple ?
Alors déjà, je lui dirais, ne vise pas tout de suite d'en faire ton métier. Commence par en faire une passion et travaille. Peut-être ça deviendra ton métier, et tant mieux. Mais au départ, il ne faut pas le viser comme métier. Et le conseil que je donnerais, c'est il faut travailler. Travailler, ça ne veut pas dire forcément suivre une formation dans les métiers de l'écriture. Ça peut être ça, mais ce n'est pas forcément ça. Travailler, ça veut dire être exigeant avec soi-même. Moi, très souvent, je fais beaucoup de rencontres en public avec des lecteurs, et très souvent, des gens viennent me voir en m'emmenant et me disent est-ce que je peux vous donner tel texte à lire que je viens d'écrire ? Et je dis aux gens, moi, mon métier, c'est pas de lire les textes des autres, c'est les éditeurs qui doivent lire les textes, c'est pas les auteurs. Mais par contre, moi, je peux vous donner des conseils. Et le conseil que je vous donne, là, vous avez un gros manuscrit qui fait 400 pages, vous dites, c'est fini. Moi, je vous dis, vous ne faites que commencer. Vous avez écrit 400 pages, c'est bien, c'est le début du travail. Maintenant, il faut se mettre à la suite du travail. Ça veut dire qu'il faut le relire, le reprendre, le retravailler. Il faut repasser dessus, toujours, toujours, toujours. Soyez super exigeant avec vous. Plus vous serez exigeant, et plus vous aurez des chances en plus d'être accepté par un éditeur derrière. Donc c'est vraiment que du travail, que du travail, que du travail. Pourquoi j'ai placé la virgule là ? Pourquoi j'emploie ce mot et pas celui-là ? C'est vraiment du détail. Hein ? Moi, quand on lit mes textes, même un texte que j'ai écrit il y a 30 ans, je ne les connais pas par cœur. Hein. Mais si jamais l'un de vous lit un de mes textes à voix haute, et si jamais, je vous mets la pression, si jamais vous allez lire un jour devant moi, mais si jamais vous me changez un mot dans le texte, je vais m'en rendre compte. même écrit il y a 30 ans. Parce que ça ne sonne pas comme je voulais que ça sonne.
Ben, merci Violaine, hein, merci les élèves. Vous avez été très très bien. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission littéraire avec Violaine Béraud aujourd'hui. Deuxième partie de l'émission qui sera consacrée à son roman Tomber des nues, qui je crois est sorti en 2018.
Nous retrouverons Élodie Saint-Tenac et les élèves de terminale HLP du lycée du Causeran à Saint-Girons avec leur invité Violaine Béraud ce jeudi à 19h10 pour la deuxième partie de cette émission.
RDC, fier de notre région.